Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Depuis 1991, une fresque illustrant les lois françaises emblématiques orne certains murs de l'Assemblée nationale. Parmi ces tableaux, une fresque signée Hervé Di Rosa. Il en est un qui représente l'abolition de l'esclavage en France en 1794. Une pétition lancée début avril réclame le retrait de ce tableau au motif qu'il banaliserait le racisme. La semaine dernière, je me suis fait l'écho de cette polémique dans un billet et il y a eu un certain nombre de réactions, dont la vôtre, Kaya Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisatrice. Votre point de vue n'est pas du tout semblable au mien. Je me suis dit qu'il était intéressant par conséquent de le faire entendre. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire cette fresque, Rokhaya Diallo ?
Alors je vous remercie de faire entendre un point de vue différent du vôtre. La fresque effectivement commémore l'abolition, la première abolition de l'esclavage de 1794. Elle met en scène deux personnages qui sont des personnages noirs, qui brisent leur chaîne. Alors ils ont de très très grands yeux en bout de loto, un sourire très très important, des lèvres rouges très épaisses et la peau noire charbon, donc qui n'est pas une peau de couleur réaliste.
Le 4 avril, donc, il y a eu une pétition lancée notamment par la réalisatrice et enseignante Mam Fatou Niang et par le romancier Julien Suodo, pour qui, je cite, cette œuvre constitue une insulte, une humiliation vis-à-vis des millions de victimes de la traite, ainsi qu'à tous leurs descendants. L'avez-vous signée ?
Je n'ai pas signé la pétition, mais je l'ai relayée. C'est important de souligner qu'elle a été initiée par deux universitaires. Mam Fatou Niang et Julien Suodo sont des universitaires. Donc c'est un débat qui a un véritable écho intellectuel. Ce n'est pas uniquement un débat de militants qui seraient en colère, mais un débat de personnes qui pensent et qui connaissent la question raciale. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir à quel contexte elle fait écho. On vit dans un pays qui a une histoire coloniale certaine et on ne peut pas faire l'économie de la réflexion de ce que signifie cette représentation des personnes noires. On sait très bien que l'imaginaire colonial et esclavagiste a porté avec ses grands yeux, ses lèvres rouges très très imposantes, un imaginaire qui visait à caricaturer les personnes noires.
Alors, donc, la première remarque du peintre Hervé Di Rosa consiste à dire que c'est sa manière de peindre et qu'il n'y a évidemment aucun racisme dans ses choix picturaux.
Alors, la question, déjà, je pense que c'est important de dire qu'il ne s'agit pas de l'artiste, mais de l'art. Il n'est pas question, évidemment, de le juger individuellement sur un plan moral, mais de savoir politiquement ce que signifie ce dessin. Alors, il a effectivement, à de nombreuses reprises, représenté d'autres types de personnages de cette manière-là, mais il a aussi représenté des personnages d'une autre manière. La vocation d'une œuvre de commémoration, c'est de rassembler et d'appeler à la mémoire et au respect de la mémoire. Alors, je ne sais pas s'il est respectueux de représenter les personnes qui se sont libérées d'esclavage d'une manière qui est totalement similaire à ce qu'on a pu voir dans des créations non seulement américaines, mais aussi en française. En France, on a aussi une histoire de ces représentations caricaturales qui avaient vocation à insulter les personnes noires.
Et alors, l'autre remarque, Rokhaya Diallo, consiste à dire que finalement, parce que malgré tout, si on interdit cette œuvre ou si on la déplace, eh bien, cela signifie qu'on considère qu'elle est et que son auteur est à minima détenteur d'une forme de racisme inconscient. Ne pensez-vous pas qu'il soit finalement extrêmement compliqué de traquer justement le racisme inconscient ?
Mais je pense qu'on est tous exposés à ce racisme inconscient. On vit dans une société qui est structurellement raciste du fait de son histoire, de la même manière qu'elle est sexiste et qu'elle a un fond homophobe extrêmement puissant. Donc à partir du moment où on est culturellement exposé à ce contexte de manière quotidienne, on peut le reproduire de manière inconsciente. Et ça, quelles que soient nos intentions initiales. Ce qui est important, c'est pas l'intention, mais c'est l'effet qu'elle produit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des enfants. Cette fresque se trouve à proximité d'une salle de projection dans laquelle des groupes scolaires se rendent. Il y a des enfants qui sont notamment noirs, qui peuvent se retrouver face à cette œuvre qui prétend, pour certains dont, qui sont laissés en esclavage, célébrer l'émancipation de leurs ancêtres et se sentir humiliés. C'est ce qui a initié le début de la pétition. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de traquer le racisme inconscient, mais de simplement noter les effets que ce racisme peut avoir sur des jeunes personnes ou sur des personnes qui s'identifient aux représentations qui sont caricaturales.
Non, je comprends bien ce que vous dites, mais l'intentionnalité, elle est quand même extrêmement importante. Parce que du coup, si on décroche cette œuvre, ça veut dire que finalement, on considère qu'Hervé Di Rosa est raciste ou qu'il l'est inconsciemment, mais en tout cas, qu'il l'est un peu. Or, à mon avis, la disparition de l'intentionnalité dans le délit ou dans le crime, peu importe le terme qu'on emploie, qu'il s'agisse d'un terme morale ou juridique. En tout cas, la disparition de l'intentionnalité dans ce type de crime raciste est un vrai problème.
Ce n'est pas un problème, parce qu'il s'agit encore une fois de ne pas de juger la personne, mais du résultat de son travail. Si on blesse une personne accidentellement, notre intention n'est pas de la blesser, mais les faits sont là, et on ne peut pas dire à la personne « je ne vais rien faire parce que je n'avais pas l'intention de te blesser ». C'est la même chose. Et je crois qu'on sait qu'il y a des codes qui sont des codes picturaux, qui sont des codes qui sont racistes. Par exemple, le grand nez, les doigts crochus, l'argent, ce sont des codes qui sont antisémites. Si un artiste décidait de faire œuvre de représentation de personnes juives et qu'il avait ces habitudes-là en termes de représentation et que cette représentation était associée à des personnes juives, il aurait beau dire que c'est son style habituel, on comprendrait bien que c'est problématique parce qu'aujourd'hui en France, cette représentation-là est une représentation antisémite. C'est la même chose pour les représentations qui sont négrophobes, comme c'est le cas de cette représentation avec ses grosses lèvres et ses gros yeux.
Rokhaya Diallo, il y a aujourd'hui un certain nombre de cas de racisme avéré, des grandes questions qui ont été mises à jour. Par exemple, la lutte qui est aujourd'hui menée pour faire reconnaître qu'Adama Traoré est mort sous les coups des gendarmes. Bref, que là, en quelque sorte, il n'y a pas de question. Il faut reconnaître cela et qu'il y a eu également un certain nombre de contrôles aux faciès, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'emploie le verbe à l'imparfait. Bref, est-ce qu'il ne faut pas prioriser la lutte antiraciste ?
Je pense qu'il faut considérer le racisme comme un spectre. À titre personnel, j'ai réalisé des documentaires sur les violences policières, ce qui ne m'empêche pas de m'exprimer sur les effets que peuvent avoir les productions artistiques dans la société. Il s'agit aujourd'hui de faire cohésion, de trouver une place digne à chacun dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, les représentations des personnes noires sont très très rares. Elles ne peuvent pas être circonscrites à des représentations aussi caricaturales. Ce qui n'empêche pas les mêmes législateurs qui sont dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, de faire en sorte que les contrôles aux faciès, que le racisme produit par les institutions cesse. Je pense que tout doit coexister pour produire justement une atmosphère qui permette à chacun de vivre dignement.
Et puis alors, ma dernière remarque, Rokhaya Diallo, est-ce que vous n'avez pas peur avec ce type de mouvement que finalement on aboutisse à une situation à l'américaine avec une hypersensibilité à un certain nombre de faits, tandis que finalement un racisme extrêmement important demeure, ce qui est le cas aux États-Unis?
Alors, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un racisme extrêmement important parce que c'est un pays qui est violent, qui est beaucoup plus violent que le nôtre de toutes les façons, où, quelle que soit sa couleur de peau, on meurt plus facilement par balle qu'ailleurs. Toutefois, c'est un pays qui parle des questions raciales et en France, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à les évoquer de manière explicite. Je remarque, par exemple, que les séries américaines qui passent en prime time évoquent cette question de manière beaucoup plus détendue qu'on peut le faire en France. Donc moi, s'il y a des choses dans lesquelles j'aimerais m'inspirer des États-Unis, c'est qu'on puisse discuter des questions raciales de manière apaisée, sans que des camps se construisent et sans qu'on considère qu'un camp accable l'autre. Il s'agit de discuter et d'avancer ensemble pour construire une société où chacun et chacune a une place digne et acceptable.
Bah écoutez, ça nous convient tout à fait, c'est ce qu'on essaye de faire sur France Culture. Merci Rokhaya Diallo, vous avez notamment réalisé « Ne reste pas à ta place », pardon, écrit « Ne reste pas à ta place » aux éditions Marabout, 7h21 sur France Culture.